Un royaume où vivaient trois religions, la Navarre médiévale. Voici la première partie de la conférence de Béatrice Leroy, historienne du Moyen Âge, conférence enregistrée le 20 décembre 2016 en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Un royaume où vivaient trois religions, la Navarre médiévale. Voici la première partie de cette conférence de Béatrice Leroy.
Certes, nous allons parler de la vie chrétienne dans la Navarre, mais également, surtout, des rapports judéo-chrétiens, judéo-musulmans, si l'on veut, de la présence donc de ces communautés, trois communautés, la majoritaire, bien sûr, qui est la chrétienne, une très forte minorité, celle des juifs, et une petite minorité qui reste dans le sud de la Navarre. Nous allons essayer de dessiner tout cela ensemble. Ça n'a pas été toujours dans le calme absolu, comme vient de le dire Monsieur le curé. Malheureusement, il y eut des périodes de drame, des périodes d'intransigeance, des périodes de violence, des exils surtout, bien sûr, mais également des périodes d'accueil pour tous ceux qui étaient exilés de l'extérieur et qui ont pu s'abriter en Navarre. Cette Navarre, Monsieur l'abbé Esponde m'avait demandé d'abord, moi aussi je remonte un petit peu loin dans l'historique. J'ajoute d'ailleurs que, étant professeur d'université, je n'ai pas enseigné que l'histoire de l'Espagne, absolument pas. Nous avions des programmes à établir tout au long de l'époque médiévale et pour tout l'Occident, mais le thème de recherche qui était le mien était donc la péninsule ibérique. Il y a l'enseignement de l'histoire médiévale d'une part et il y a les recherches personnelles d'une autre, traitant donc de la Navarre et de la littérature politique castillane. C'est tout à fait particulier. Je pense que nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de moi, mais j'arrête très vite de parler de moi. Mais surtout, Monsieur l'abbé Esponde voulait que je vous parle, peut-être, je crois avoir compris cela, des origines du protestantisme à Bayonne. Je lui ai dit non, tout de suite, je ne suis pas du tout seizièmiste. Il faut qu'il demande à des spécialistes du protestantisme, et Dieu sait qu'il y en a à Bayonne et à Pau. Moi, je traite de la Navarre, de la péninsule ibérique, et surtout, donc essentiellement, de l'époque médiévale, et pas du tout du XVIe siècle. Cependant, Bayonne n'est pas du tout en Navarre, Bayonne est en Labourg. Mais vous voyez que nous avons la possibilité tout de même de nous rattacher à Bayonne de temps à autre, au moins de l'évoquer. Bayonne est jumelée avec la ville de Pampelune, et c'est toujours important lorsqu'on est à Bayonne de parler de la Navarre. On sait aussi que pour le roi de Navarre, au XIVe siècle, XIVe, XVe siècle, XIIIe siècle, ces rois qui devaient repartir vers le nord, vers le royaume de France, nous allons le voir, il fallait un port d'embarquement et de débarquement. C'était donc Bayonne, considéré comme le port principal, du moins pour les Navarrais, qui, grâce au cours de la Joyeuse qui passe à l'abbatie de Clérance, la bastide la plus septentrionale de ce royaume, rejoignait Urte, donc le cours de la Dour, et ensuite Bayonne, voilà pour ces nuances. Surtout aussi, vous voyez grâce à cette carte que je vous ai apportée des divers diocèses, que le diocèse de Bayonne mord un petit peu sur le royaume de Navarre dans la partie septentrionale. Les marges occidentales de la province d'Outreport, que nous appelons aujourd'hui la Basse-Navarre, relevée du diocèse de Bayonne, en particulier l'abbatie de Clérance, et surtout tout le cours du Val de Bastane qui se trouve en Navarre et qui relève du diocèse de Bayonne à l'époque médiévale. Nous ne sommes donc pas très éloignés de cette ville qui est province de la Bourg, qui relève du duché d'Aquitaine, qui n'a rien à voir avec le royaume de Navarre, si ce n'est qu'une alliance d'obligation et d'amitié s'est instaurée à la fin de l'époque médiévale et que donc plusieurs âmes navarraises relèvent de l'évêque de Bayonne. Ce petit royaume de Navarre à la fin du Moyen-Âge qui nous intéresse lui-même est dans la dépendance dans le nord de la Basse-Navarre du diocèse de Dax. L'Est est en lisière du diocèse d'Oloron et du diocèse de Raqqa et du diocèse de Huesca, donc diocèse d'Oloron qui est du Béarn, et Raqqa et Huesca, et Saragosse bien sûr dans le sud, qui sont des diocèses aragonais. Le Val de l'Èbre lui-même est jalonné par le diocèse de Calahorra, qui est de Castille. Enfin, donc voilà tous ces cours de ces alentours, ces frontières de ce royaume de Navarre, qui fut très largement étendu vers l'an 1000, car on dit, en se trompant un peu, en exagérant, on aime toujours un peu exagérer, que la Navarre recouvrait presque toute l'Espagne chrétienne au moment de l'occupation musulmane, tout au moins du Val d'Aran jusqu'à la Castille incluse, puisque le roi de Navarre, Sanche le Grand, avait épousé l'héritière de la Castille. Mais à cause des partages successoraux, à cause des diverses difficultés des siècles, des conquêtes internes, l'Aragon conquérant la Navarre reprenant son indépendance, la Navarre se heurtant à la Castille, etc. Donc, depuis le milieu du XIe siècle, à la mort de Sanche le Grand, divers royaumes se sont créés aux dépens de la Navarre, aux dépens de la Grande Navarre, si bien que la Navarre, proprement dite, sous le terme de Navarre à partir du XIIe siècle, est restée en quelque sorte coincée entre l'extension du royaume d'Aragon et l'extension du royaume de Castille pour toutes les parties ibériques, et les uns et les autres, très souvent se faisant la guerre, de temps en temps aussi, vivant dans un état d'alliance ou du moins d'entente cordiale. Voilà la situation politique générale, il faut le savoir. La Navarre est limitrophe des régions aquitaines, béarnaises et françaises, et des régions aragonaises et des régions castillanes pour la partie méridionale. Pour l'essentiel du royaume, car c'est un royaume profondément ibérique, qui est gouverné par une loi ibérique, le fuero général, le fuero donc qui est le code de loi, le code de droit que l'on donne aux villes, que l'on donne aux vallées, que l'on donne au royaume tout entier, qui comporte les rubriques pour renseigner aux gens tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils ne doivent pas faire, quels sont les droits des diverses catégories sociales et en particulier de celui qui est à leur tête, qui est donc le roi, le souverain de ce royaume. Royaume indépendant, depuis 1134 définitivement, il l'était depuis sa création de 820-830. Auparavant, il n'existait pas. Mais royaume donc qui s'est affirmé progressivement, décidément indépendant, et il est resté jusqu'en 1521 avec quelques essais de reconquête, mais en tout cas indépendant. Par toutes sortes d'héritages, avec le droit des femmes qui est reconnu en péninsule ibérique, capable de léguer un royaume comme une province, donc les femmes peuvent transmettre par mariage le royaume de Navarre dont elles héritent à leur mari, nous avons des rois qui depuis le XIIIe siècle sont de dynastie française, des comtes de Champagne, rois de Navarre au XIIIe siècle, des rois de France ayant épousé l'héritière de la Navarre au XIIIe et XIVe siècle, des comtes d'Évreux qui sont héritiers par leur mère de la Navarre au XIVe et début du XVe siècle, des rois donc qui n'étaient pas du tout de droit espagnol, de droit ibérique, qui, à l'origine, ne savaient pas la langue, les langues parlées en Navarre, nous allons les voir. Donc, l'espagnol en général, qui est en cours de fixation, qui est le castillan, et qui, de plus en plus, est utilisé dans les chancelleries. Et très parfaitement en Navarre, c'est un très pur castillan, de temps en temps, quelques nuances navarro-aragonaises montrent un peu de différence, mais en tout cas, donc, c'est le castillan qui triomphe à peu près partout. Mais c'est un État quand même plurilingue, nous dirions, qui connaît le multilinguisme. Bien sûr, la langue d'Église, qui est le latin, qui demeure longtemps, mais on le voit dans les archives de la cathédrale, très vite aussi dans les registres, dans les transactions foncières, dans les registres de comptes. Là aussi, c'est le castillan qui l'emporte. Je ne parle pas évidemment de la liturgie latine et de la langue officielle, mais aussi le français. Dans la cour des rois, qui sont des rois français, qui ont des secrétaires français, et très longtemps des officiers de cour, des officiers de la politique, des officiers de l'administration, qui sont aussi français, quoique, à partir du XIVe siècle, progressivement, avec l'action de Charles II, Charles III, ce sont très progressivement les Navarrais qui accèdent à ce gouvernement et qui font donc triompher également dans la langue de chancellerie, le Navarrais. Donc le Navarrais, le latin, le français. Nous avons dans toute la province d'Outreport le gascon, qui est parlé donc relevant du diocèse de Dax. La majorité des testaments sont rédigés en gascon et les gens parlent le gascon et écrivent le gascon, des gascons divers, des patois divers. Les montagnes, évidemment, parlent basque. Et étant donné que c'est une demande pontificale depuis le concile écuménique du Latran, quatrième concile écuménique de Latran de 1215, le pape l'a bien demandé à tous les évêques doivent envoyer dans tous les villages des prédicateurs parlant la langue du peuple, des curés capables de s'exprimer dans la langue du peuple et surtout d'écouter la confession de leurs ouailles au moins une fois par an dans leur langue. Si bien que l'évêque de Pampelune, depuis 1215, et donc dans les trois siècles qui nous intéressent, 13, 14 et 15e siècle, veille à envoyer dans les montagnes de Pampelune, dans le nord-est de la Navarre, et dans le Val de Bastogne, et dans les marges donc de ce royaume d'Outreport, dans cette partie d'Outreport, des curés qui manient le basque et qui doivent être capables de parler le basque. Je ne dis pas écrire, mais parler le basque. Voilà les diverses langues. J'ajoute, il nous intéresse aujourd'hui, nous avons à Tudela et autour de Tudela des documents en hébreu dans les communautés juives, car ce qui est écrit a un caractère sacré, donc les juifs doivent au moins leur responsable, au moins leur notable, manier l'hébreu, des contrats de mariage, des ordonnances municipales, des ordonnances de la communauté en hébreu, ou alors, et c'est très intéressant, ce que l'on appelle le rudevenko ou le rudienko ou l'alhamiyado, et je prononce à l'espagnol actuel avec la rota qui doit se prononcer je pour l'époque médiévale, nous avons de l'espagnol, du castillan navarrais, mais rédigé avec des caractères hébraïques et qu'il faut savoir lire. Nous avons aussi quelques textes dans la communauté musulmane qui ont été maintenus et qui peuvent être donc gardés dans la langue, dans les caractères koufiques et l'arabe littéraire. Très souvent dans les chancelleries royales, et on pourra les évoquer à l'occasion, nous avons des cartas rudienkas et des cartas moregas, des chartes écrites en mor, c'est-à-dire donc en langage de ces communautés musulmanes qui ont été maintenues, et puis donc dans les caractères hébraïques dont je viens de vous parler. C'était plutôt d'ailleurs une langue de ralliement une terre communautaire à la fin, mais la chancellerie royale exige que tout texte rédigé en caractère hébraïque ou en caractère koufique doit être envoyé avec une traduction recopiée pour la chancellerie royale, car c'est un moyen de surveillance que l'on garde dans ce gouvernement royal. Cette Navarre ainsi réduite a de remarquables archives qui permettent une observation multiforme des archives générales du royaume de Navarre, l'archivo général qui se trouve à Pamplune, les archives donc de la royauté, les archives de la ville de Pamplune, les archives municipales, les archives surtout de la cathédrale de Pamplune, très riche, très intéressante, avec toutes les langues que je viens d'évoquer, les archives de Tudela, des protocoles notariaux, des archives de la cathédrale de Tudela, qui est la collégiale et devenue cathédrale à partir du XVIIe siècle. Donc, archives de la cathédrale. Nous avons quelques archives paroissiales pour Estelia, mais enfin, le principal a été rassemblé à Pamplune et nous pouvons donc tracer une histoire tout à fait complète, soit de la vie politique, économique, administrative, et une histoire socio-culturelle, socio-religieuse qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ce royaume, nous avons donc, sous la direction des rois comtes de Champagne, rois de France et de Navarre, entre 1285 et 1328, roi de Navarre, comte d'Évreux, puis au XVe siècle, roi de Navarre et roi d'Aragon, puis encore au XVe siècle, roi de Navarre et comte de Foix, vicomte de Béarn, etc., dans la partie septentrionale. Vous voyez que nous avons, grâce à tous ces mariages et tous ces héritages, là aussi une histoire polymorphe à la tête de ce royaume. Nous avons donc ces trois communautés. La principale, qui est la communauté officielle, est évidemment la chrétienne, catholique, traditionnelle, qui suit toutes les normes de la vie de l'Église. Vous voyez que l'on obéit au pape en envoyant donc les curés dans les montagnes qui peuvent parler à la population, qui surveillent le culte. L'évêque, d'ailleurs, là aussi, c'est une demande pontificale depuis 1215, doit aller lui-même dans tous les villages, dans toutes les paroisses de son diocèse. Très souvent, il envoie un procureur, évidemment, car nous sommes dans la génération, au XIVe et XVe siècle, de ce que l'on peut appeler les prélats politiques, qui se mêlent, parce que ça fait partie de leur devoir, ils le ressentent ainsi, de la vie politique du royaume. Ils sont conseillers des rois, ils sont ambassadeurs des rois, ils donnent leurs exigences très souvent au gouvernement royal, donc ils ne sont pas toujours là. D'autant plus lorsque, au XIVe siècle, et depuis le XIVe siècle, le pape, quittant la ville de Rome qui était en insurrection, s'est réfugié à Avignon, qui fait partie de la souveraineté pontificale qui lui appartient. Donc les évêques de Pamplune, comme les Français, comme tous les autres, vont très souvent visiter le pape en Avignon. Et c'est un certain voyage, il faut y aller, il faut revenir. L'évêque n'est pas toujours là, mais l'évêque laisse un procureur qui est le doyen du chapitre de la cathédrale de Pamplune ou le vice-procureur, enfin donc il envoie quelqu'un à sa place et c'est une surveillance intéressante et au fond on peut dire que malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer toujours, malgré toutes sortes de manquements à la règle, nous avons une vie chrétienne tout à fait traditionnelle et tout à fait, on ne va pas dire impeccable, mais de grande observance, tout au long des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Grâce à toutes sortes de documents, les transactions foncières, les textes de l'évêque lui-même et la vie des chrétiens que l'on voit à travers les contrats de mariage, les legs, les testaments, nous voyons une très remarquable charité, une vie chrétienne qui est tout à fait traditionnelle. Flandina Cruzat, qui est de la bourgeoisie de Pamplune, rédige son testament en 1348. Elle était très riche, à part quelques bribes qu'elle donne à sa famille, mais sa famille n'en a pas besoin parce que c'est une famille de francos, c'est-à-dire de francs-bourgeois, très riches, très installés, souvent d'origine française, mais qui peut être également d'origine navarraise, donc des francs-bourgeois privilégiés. Flandina est la fille de l'un des grands marchands fournisseurs de la cour. Elle est très fortunée, et toute la famille Cruzat est très fortunée. Et au fond, bribe par bribe, dessous par dessous, 18 sous, une livre, 20 livres, nous voyons toute sa fortune tenant 4 ou 5 pages de testament qu'il faut savoir lire évidemment pour cette rédaction tout à fait passionnante, à tous les ordres religieux qu'elle connaît dans la Navarre, à l'évêque, au chapitre, à toutes les paroisses de la ville de Pamplune, surtout à Saint-Cernin, qui est le Saint-Cernin, qui est l'un des quartiers de Pamplune et qui est celui des francos le plus riche et le plus privilégié de la capitale de la Navarre. Donc, des legs aux paroisses, mais des legs à tous les ordres mendiants masculins, ordres mendiants féminins, les dominicains, les dominicaines, les franciscains, les franciscaines, les augustins, les augustines, le carmel, les carmélites, tous ces ordres se trouvent à Pamplune, comme ils se trouvent d'ailleurs dans la majorité des agglomérations, je dirais, de l'Occident, mais également donc dans cette péninsule et dans la Navarre. Elle offre aussi à l'ordre de Calatrava, qui est un ordre purement ibérique et qui se bat dans le sud contre les remontées des Maures, des musulmans, qui peuvent être très fondamentalistes, très intransigeants, les Almoravides à la fin du XIe siècle, les Almohades au XIIe siècle qui ont tué tout ce qui était juif et chrétien dans la péninsule, etc. Donc l'ordre de Calatrava qui essaie de résister contre toutes ces remontées fondamentalistes du Sud. Et Calatrava même, il faut le dire entre parenthèses, car c'est une gloire pour la Navarre, Calatrava qui se trouve en Andalousie, très loin au sud, donc au sud-est de Tolède, entre Tolède et Murcie par exemple, et le sud de Murcie, même Grenade. Calatrava dans le sud a été une fondation des moines cisterciens de Fitero qui se trouve au sud de la Navarre, à la frontière de la Navarre et de la Castille. Les Navarrais en sont très fiers car l'ordre de Calatrava est à l'origine de naissance navarraise, donc des cisterciens de Fitero. Voilà. Elle donne aussi à tous les ordres bénédictins traditionnels, car les abbayes bénédictines de Leyre, d'Irache, donc sont des abbayes très très puissantes dans la société, en tout cas de grande dévotion de la part des Navarrais. Les bénédictins cisterciens, très très en faveur en Navarre, Fitero, quelque temps Leyre, puis qui est revenu aux bénédictins traditionnels, mais nous avons aussi Iransu, nous avons la Oliva dans le centre du royaume et leur variante féminine avec Marcilla et tous les Bras, donc qui se trouvent dans la Ribera, c'est-à-dire dans le sud de la Navarre. Donc toute la communauté navarraise pactise et donne donc des offrandes pour ces présences monastiques. Les ordres mendiants, très répandus en Navarre, surtout depuis le roi Thibaud II, qui était le second des comtes de Champagne, roi de Navarre, au milieu du XIIIe siècle, et qui était lui-même le gendre de Saint-Louis. Et très marqué par la spiritualité de Saint-Louis, il a fondé des ordres donc de dominicains, de franciscains et autres dans l'ensemble de la Navarre. Et puis aussi, et ils sont purement espagnols à l'origine, avec une petite extension internationale, l'ordre des Trinitaires et l'ordre des Mercédaires. L'ordre des Trinitaires, fondé par Jean de Matha, qui était un Provençal, mais qui a beaucoup travaillé à Barcelone et en Catalogne, ainsi que l'ordre de Mercédaires, de la Merci ou des Mercédaires, qui était de Pierre de Nolasque, qui était un languedocien, mais qui lui aussi a beaucoup travaillé donc en Catalogne et dans l'ensemble de la péninsule, les Trinitaires au XIIe siècle, les Mercédaires au XIIIe siècle, dont la spiritualité et le rachat des captifs des mains de l'islam, car il y avait eu, du fait de la guerre des courses, des raids de part et d'autre des frontières, de la guerre entre musulmans et chrétiens qui a été assez constante dans le sud de la péninsule et puis dans l'ensemble méditerranéen. Nous avons donc des chrétiens très nombreux captifs dans les bagnes de l'islam. Les Trinitaires et les Mercédaires allaient en tournée de rédemption offrir l'argent de la rançon de ces captifs, et donc ces rançons étaient payées par les cotisations de tous les chrétiens, tous les Navarrais comme les autres, qui offraient donc aux Trinitaires et aux Mercédaires ainsi. Et si la rançon n'atteignait pas, enfin si la somme réunie n'atteignait pas le prix de la rançon, les Mercédaires et les Trinitaires s'offraient eux-mêmes en remplacement des chrétiens qu'ils libéraient ainsi. Des ordres très méritants, vous voyez, qui ont eu une extension en France. Il y a eu un couvent des Mathurins à Paris qui était l'ordre des Mercédaires. Voilà, par exemple, il y en a un petit peu partout, mais au XVIe siècle, ce sont des ordres qui ont été transférés dans les ordres mendiants, qui ont rejoint les ordres mendiants. Il n'y avait plus, dit-on, de rachat de captifs nécessaire donc à opérer. Donc, une vie chrétienne tout à fait impeccable.
Un royaume où vivaient trois religions, la Navarre médiévale. Vous venez de suivre la première partie de cette conférence de Béatrice Leroy, historienne du Moyen-Âge, conférence enregistrée en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne le 20 décembre 2016. La seconde et dernière partie de cette conférence sera diffusée sur notre antenne la semaine prochaine, même jour, même heure.